Bonjour, c'est Florence, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler de l'importance du village en postpartum. Maman Relax, c'est le podcast qui vous parle de la solitude ressentie en postpartum et surtout, qui vous donne des clés simples et rapides pour vivre une maternité épanouissante. Je suis Florence, je suis sage-femme et j'ai hâte de passer ce moment avec vous. Alors tout au long de cet épisode, je vais te donner des conseils simples et rapides pour mieux vivre ton postpartum. Tu peux les recevoir directement par mail. Pour ça, abonne-toi au conseil de Maman Relax. Il y en aura un par semaine après le podcast. Et le lien pour s'abonner se trouve dans la description de l'épisode. Comme ça, tu n'as pas besoin de prendre des notes ou quoi que ce soit pendant le podcast. Tu peux écouter tranquillement, sereinement. Et tout arrivera dans ta boîte mail. Promis, c'est vraiment des mails courts avec juste l'essentiel. Parce que je sais que le temps est précieux en postpartum. Donc, je ne vais pas abuser de votre temps. J'ai envie de commencer cet épisode avec une citation qui est assez connue, que tu as sûrement toi-même entendue au cours de ta maternité. C'est « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Alors pourquoi un village et quel est le lien avec ton sentiment de solitude ? Un enfant, un bébé, demande vraiment énormément de temps et de ressources. Et toutes les étapes de son développement vont peut-être te poser question. Est-ce que c'est normal qu'il fasse ça à cet âge-là ? Est-ce qu'il peut tenir assis ? Est-ce qu'il faut que je l'aide? Comment le nourrir? Qu'est-ce que je vais lui donner? Quels sont les allergènes? Enfin voilà, il y a des milliers de questions à se poser sur le développement de ton enfant. Et du coup, on n'a pas forcément toujours personnellement les ressources nécessaires pour répondre à ces questions. En plus, voilà, il y a la fatigue qui joue ou simplement tu vas avoir envie de partager les sourires de ton enfant avec tes proches. Bref, avoir un village, c'est vraiment essentiel. Mais nos vies, le quotidien, notre culture ont réellement transformé notre village. Nos proches sont moins proches géographiquement, moins disponibles parce que chacun travaille, a sa famille à gérer, parce que parfois ils n'osent pas être présents de peur de déranger ou par pudeur simplement. Et donc je vais peut-être parler un peu comme, comme une personne plus âgée, mais on vit vraiment à une époque où on montre tout, que ce soit ce qu'on mange, ce qu'on fait, et on a l'impression parfois de connaître la vie des autres grâce aux réseaux sociaux. Alors que ce qu'on voit sur 5 minutes de story ou en lisant un post, c'est pas du tout représentatif du quotidien de quelqu'un. Et donc on peut pas considérer que « Ah ben j'ai vu 5 photos aujourd'hui où elle faisait un sourire, elle va bien, j'ai pas besoin de prendre des nouvelles. » Le fait de regarder un contenu sur un réseau social, c'est différent que de prendre des nouvelles de quelqu'un, de lui parler et de lui demander comment il va réellement. Donc ça c'est un truc aussi qui est assez important je pense, parce que des fois on a la fausse impression d'être en contact avec les personnes, même avec des personnes très proches. Hein. On peut avoir l'impression, ah bah oui, ce week-end il a fait ça, nanana, il était bien occupé et tout. En fait, vous vous êtes pas parlé et il n'y a pas eu d'échange entre vous réel. Donc voilà, ça c'était un petit point que j'avais envie de te partager. Mais vraiment, à côté de ça, à côté du fait qu'on partage tout, autant ce qu'on mange que ce qu'on fait, que ce qu'on achète, la majorité des gens ne partagent pas leurs sentiments ou leurs pensées les plus profondes avec leurs proches. Finalement, on partage peu de nous-mêmes, de ce qui fait qui nous sommes vraiment profondément. Comment est-ce que toi, ça t'impacte dans tout ça? Toi qui viens de devenir mère, qui a besoin de soutien ou de présence, quel impact ça a sur toi et sur ta maternité ou sur ce que tu avais imaginé? Alors pour mieux comprendre, on va revenir un petit peu en arrière. Tu viens de découvrir ta grossesse, tu te sens prête à l'annoncer à tes proches. Tout le monde est super heureux pour toi, on prend régulièrement de tes nouvelles, des nouvelles de bébé. Les mois passent, ponctués des rendez-vous médicaux, la fin de la grossesse arrive. Alors là, t'es noyé sous une tonne de messages parce que à partir de 7 mois et demi, ah, il est bientôt là. Le 8e mois, alors il n'est pas encore né. Ou le 9e mois, tu peux avoir des messages tous les jours en mode alors, t'as des contractions. Alors. Il est déjà là, le grand jour arrive enfin. Tu annonces la naissance de ton bébé et là, tu reçois des félicitations, une bouffée d'amour, des visiteurs. Les visites se mettent en place, tout le monde veut découvrir ton bébé. Et jusque-là, tout va bien. Et puis les premières semaines passent, ton conjoint retourne au travail et chacun reprend sa vie. Et tes proches prennent moins de nouvelles ou prennent des nouvelles de bébé de temps en temps. Et là, tu as vraiment la solitude qui s'installe parce que toutes ces présences, ces attentions ne sont plus là ou un peu plus redirigées sur ton enfant que sur toi. Et donc là, tu peux voir un peu quels mécanismes se mettent en place dans le postpartum. Donc tu as la chute hormonale après la naissance. Le conjoint qui reprend le travail, la fatigue qui s'installe, tu te reconnais peut-être plus physiquement, le rythme de tes journées tourne autour de ton enfant, clairement, et tes proches continuent leur vie. Parfois c'est dur, parce que la tienne de vie, elle vient d'être chamboulée, ton univers entier a changé, mais le leur, non, et leur vie, elle doit se poursuivre, et ils peuvent pas tout abandonner pour plonger dans ton univers, ce serait pas sain, ce serait pas normal pour eux et même pour toi. À un moment, tu te sentirais oppressé. Et donc, c'est évident qu'ils sont là pour toi, mais ils peuvent peut-être pas toujours être aussi présents que ce que tu le souhaiterais. Et t'as aussi la diminution des rendez-vous médicaux, parce qu'avant chaque mois, t'étais face à un professionnel, ensuite à la maternité, t'étais hyper entourée, t'appuyais sur un bouton, hop, il y a quelqu'un qui arrive. Tu pouvais être rassurée si t'en avais besoin, et maintenant, bah, t'es rentrée à la maison et tous ces rendez-vous se sont arrêtés, donc t'es vraiment seule avec toi-même. Pendant 9 mois, on t'a demandé comment t'allais, on s'est préoccupé de ta santé, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Plus personne pour te demander comment tu vis ce chamboulement, plus personne pour rire avec toi de ton café éternellement froid, de ton quotidien de maman. Forcément, ça participe au sentiment de solitude que tu peux ressentir. C'est normal et c'est légitime, mais si tu veux en sortir, il est temps de reprendre contact avec ton village ou de le créer. Alors là, on va sortir des difficultés et on va remettre un petit peu d'énergie et de solutions dans tout ça. Pour commencer, t'es pas seule, t'es entourée, il y a des gens qui t'aiment et qui aiment ton enfant. Simplement, parfois, on ne le voit plus ou on n'en a plus forcément conscience. Et la première astuce que j'ai envie de te donner, c'est de oser parler à tes proches, ose demander de l'aide si tu en as besoin, de dire à ton conjoint que tu as besoin de présence, que tu as besoin d'un câlin, que tu as besoin de lui simplement. Tu es la seule à savoir ce dont tu as besoin et tes proches sont pas devins, donc ils vont avoir besoin de ton aide pour pouvoir être présents pour toi. Alors, un gros point dans le postpartum, bah, c'est toujours cette fameuse fatigue hein, qui te fait passer de l'héroïne d'un film, d'une princesse Disney au méchant, qui te fait tout remettre en question et pas forcément toujours dans le bon sens, qui te fait te remettre en question ta vie, tes relations, ton conjoint, l'amour que vous pouvez vous porter, ta maternité aussi parfois. L'idéal, c'est d'essayer de cohabiter du mieux possible avec elle pour qu'elle diminue et que progressivement, toi, tu puisses reprendre le dessus. Comment alors cohabiter avec cette fameuse fatigue? Essaye de dormir quand ton bébé dort. Alors ça paraît nul et facile à dire, c'est un peu la phrase bateau qu'on entend toutes. Mais si tu arrives à dormir avec ton bébé, tu vas augmenter tes heures de sommeil sur 24 heures. Et donc forcément, tu seras moins fatiguée et ce sera moins dur de t'adapter à un nouveau rythme. Pour réussir par contre à le faire, il faut lâcher prise sur certaines choses, hein. Il faut aussi éviter d'être sur son téléphone quand le bébé dort parce que sinon le temps passe à une vitesse folle et il a fini sa sieste que toi tu t'es pas encore endormie. Tu peux aussi faire un bilan des tâches quotidiennes que tu dois faire et voir où tu peux gagner du temps. Par exemple, si tu fais des repas en grande quantité, ça te permettra de cuisiner moins souvent et d'avoir juste à réchauffer. Ou alors tu choisis de faire des plats qui demandent moins de préparation. Tu peux faire tes courses en ligne si ça te permet de gagner du confort de vie. Alors peut-être que tu préfères faire le tour des petits producteurs ou faire tes courses autrement. Mais là, tu es dans une période de transition. Ça ne va pas être ton mode de vie pour les 10 prochaines années. Là, l'important, c'est vraiment d'alléger ton quotidien maintenant pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Si tu avais fait une liste de naissance, tu peux mettre des bons pour avoir de l'aide, pour recevoir des repas de ta famille, de tes proches, pour faire tes courses. Ça, c'est des choses qui sont vraiment précieuses par la suite si tu as besoin de te reposer. Un conseil aussi, c'est de prévoir vraiment suffisamment de body, de pyjama, de linge pour ton enfant, pour pas que ce soit un problème, une source de stress. Si tu as prévu tout juste et qu'il est malade et que tu vois qu'il n'y a presque plus rien dans son armoire, mais que tu n'as pas encore eu le temps de faire une machine et tout, bah là, c'est l'angoisse et ta charge mentale continue à augmenter. Ce que je te propose, moi, c'est vraiment de t'adapter à cette période et d'économiser ton énergie autant que tu peux. Alors, tu peux tout à fait maintenir la vie que tu avais avant, mais tu risques d'aller à contre-courant et de te fatiguer et de t'épuiser. Le postpartum et l'intensité de la petite enfance, vraiment, elles ont une durée limitée. La première année est très, très intense, la deuxième l'est aussi. Et puis après, petit à petit, il y a un équilibre qui va se créer. Tu vas trouver ta place, tu vas trouver ton organisation. Tout va s'apaiser. Et donc, c'est vraiment là, en mode. Au moins la première année, tu es en mode survie. Et qu'est-ce qui peut t'aider à améliorer ton quotidien? Ah, c'est de dormir, de t'économiser sur les tâches ménagères, des choses qui sont plutôt secondaires. T'adapter maintenant, c'est pas oublier celle que t'es, c'est pas oublier ton mode de fonctionnement, c'est pas te mettre de côté, c'est simplement trouver des alternatives pour pouvoir cohabiter avec celle que tu es maintenant et te permettre finalement de récupérer de l'énergie pour savoir quelles sont tes aspirations, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu voudras faire par la suite. Donc en t'adaptant, tu vas diminuer ta fatigue, retrouver un équilibre et justement te permettre bah, d'avoir du temps et de cultiver celle que tu es. C'est comme si tu nageais à contre-courant, à un moment tu t'épuises, tu te noies, alors que si tu te dis bon allez. J'aime pas trop ce courant, c'est pas celui qui me plaît le plus, mais on va y aller et on va voir ce qu'il y a au bout. Ben là, tu peux suivre le mouvement et à un moment, tu auras peut-être la force de sortir de l'eau Ou alors, peut-être que tu vas te retrouver sur une super plage et pouvoir faire une sieste au soleil. Donc ça, c'est quand même une sieste au soleil sur une plage, c'est pas négligeable, hein. Faut pas dire non à ce genre de choses. Je m'égare un peu, mais voilà, ton village dans tout ça, comment le créer ou comment le retrouver? Tu peux commencer par prendre contact avec tes proches. Parfois, la solitude, c'est dans ta tête. C'est en essayant que et en demandant de l'aide que tu sauras si tu es réellement entouré ou pas. Je suis persuadée que quand on demande de l'aide aux gens qu'on aime et qui nous aiment, on en reçoit. Même si de prime abord, tu peux te dire oui, mais non, j'ai pas envie de déranger, je suis pas sûre qu'il sera là pour moi ou qu'il va comprendre. Il y a des fois, juste, c'est une question de survie. Tu as besoin de dormir, tu as besoin d'aide pour faire quelque chose, bah, tu recevras l'aide que tu demandes. Alors, ce sera pas fait de la même façon que ce que toi tu fais, mais ça sera quand même fait avec bienveillance et avec amour, et c'est le plus important, et ça te permettra surtout de respirer, de te reposer un peu. Tu peux également contacter tes amis. Il y en a peut-être certaines qui sont éloignées parce que vous êtes plus au même stade de vos vies. Ça arrive régulièrement, ça. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont plus là pour toi ou qu'elles se préoccupent pas de toi. C'est simplement, vous n'êtes pas du tout dans la même temporalité, pas dans la même dynamique. Mais si tu as besoin d'elles ou si elles ont besoin de toi, tu seras là et elles seront là. Quand on aime quelqu'un, on est capable de s'intéresser à ce qu'il vit, de l'écouter, de le soutenir. Même si c'est pas forcément nos envies personnelles. Tu as peut-être rencontré aussi des mamans lors de tes cours de préparation à la naissance ou sur les réseaux sociaux, et ces mamans, elles traversent probablement les mêmes difficultés que toi et les mêmes joies, parce qu'on parle beaucoup des difficultés, mais c'est aussi important de pouvoir partager des petits bonheurs du quotidien avec des gens que ça intéresse et que ça touche. Quand ton enfant va attraper des objets et que tu seras émerveillé, tu auras envie de le partager avec des gens que ça intéresse quand il va commencer à. Quand il fera une bêtise ou quand. Une bêtise, hein, ça. Pas vraiment une bêtise, mais quand il fera le clown ou quand il fera des choses rigolotes, tu auras envie de les partager avec tes proches et d'avoir. De pouvoir te retourner, de regarder quelqu'un et de rire avec de ce que ton enfant est en train de faire. Ces mamans-là traversent sûrement les mêmes moments que toi et donc tu peux te tourner vers elles et je suis sûre qu'elles seront super heureuses de créer des liens avec une autre maman. Et petit à petit, en t'ouvrant, en étant en contact avec ton entourage, tu vas te créer un noyau dur, un vrai village avec des voisins qui sont très très proches, sur lesquels tu peux compter de façon inconditionnelle et puis des voisins plus éloignés sur lesquels tu peux compter de temps en temps mais qui sont quand même là et présents pour toi. Tu verras aussi que la vie d'un village, elle est riche, elle est pleine de rebondissements. Mais elle est surtout pleine d'amour et que ça vaut la peine des fois de dépasser ses appréhensions, ses a priori, ses questionnements pour retourner vers les autres et rentrer en contact et demander de l'aide pour construire ton village. Il y a des personnes qui vont entrer dans ta vie et puis qui la quittent, qui déménagent finalement vers un autre village. Et c'est la vie qui suit son cours, c'est sain de laisser des personnes s'en aller. Parfois on a des grosses affinités, des atomes crochus et puis finalement la vie suit son cours et. Les affinités sont moins présentes et il n'y a pas forcément eu un événement intense, particulier ou négatif. Simplement, la relation s'est étiolée avec le temps et il n'y a pas d'animosité, mais c'est simplement OK de laisser sortir des gens de ta vie. Vous avez eu des échanges sincères auparavant et honnêtes, où vous êtes appréciés. Elles t'ont apporté quelque chose quand vous étiez en contact à ce moment-là et donc c'est quelque chose d'important. C'est pas parce qu'une personne sort de ta vie que ce qui s'est passé avant est à mettre à la poubelle ou à oublier ou à dénigrer. Et c'est humain aussi d'en vouloir à quelqu'un lorsqu'il quitte ta vie alors que ce n'était pas toi ce que tu souhaitais. Pour te sentir sereine avec ça, tu peux essayer de te demander comment tu le vis. Est-ce que tu te sens en colère? Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens déçue? Et en fonction de la réponse, tu vas pouvoir aller plus loin dans ta réflexion et te demander pourquoi. Si tu es en colère, est-ce que c'est parce que tu te sens abandonnée ou parce que tu comprends pas pourquoi? Et que c'est une incompréhension et que ça te frustre. Juste en quelques questions, tu peux aller beaucoup plus loin dans ta palette de sentiments et dans ta compréhension de toi-même et des événements que tu vis. Parce que juste, je suis fâchée, j'ai plus de contact avec, ou je me sens en colère, mais qu'est-ce que cette colère me renvoie? Est-ce que je suis triste parce que je ne suis pas en contact avec cette personne? Est-ce que je suis en colère simplement parce qu'elle a quitté ma vie et que j'étais pas d'accord avec ça? Est-ce que finalement je pensais être en colère, mais c'est l'incompréhension qui pose problème? Tu vois vraiment que tu peux mettre beaucoup plus de mots sur ce que tu ressens, et plus tu vas mettre des mots et tu vas analyser la situation au mieux, plus tu vivras mieux la situation. Peut-être que voilà, à la base t'es en colère, et finalement tu te rends compte que t'es triste parce que c'est quelqu'un qui compte pour toi et que t'avais pas envie de perdre cette personne. Et si tu te rends compte de ça, bah, ça vaut la peine de dire bah, je vais la recontacter. Et si au contraire tu étais triste et que tu te questionnais, et qu'en te questionnant tu te rends compte que c'est plutôt le sentiment d'abandon qui domine, tu peux te demander si c'est le fait que cette personne quitte ta vie qui pose problème ou c'est le fait de plus être en contact qui est douloureux. Parce que si c'est le fait qu'elle quitte ta vie, c'est simplement vraiment toi personnellement, tu as du mal à laisser partir des gens. Ou si c'est le fait de plus être en contact, tu peux te dire bah, c'est la personne pour elle-même qui me manque et donc je vais mettre des actions en place pour aller retourner vers elle. En fonction de tes réponses à tes questions, tes actions seront peut-être totalement différentes. Et pour te sentir bien et sereine avec toi-même, bah, il faut que tu puisses comprendre ce que tu vis et comment tu le vis. Parce que si tu dis juste je suis en colère, bah voilà, tu vas pas aller bien loin, tu resteras avec ta colère simplement. Ou si tu te sens abandonné, si tu te questionnes pas plus loin, tu vas peut-être dire ah mais il faut que je la garde à tout prix près de moi. Mais si c'est juste pour contrer ce sentiment d'abandon, mais que cette personne finalement ne te manque pas pour qui elle est, c'est pas juste non plus, tu vois. Ça vaut la peine de réfléchir et de faire le point sur tes relations. Et en fonction des réponses que tu t'apportes, tu vas pouvoir mettre des actions en place qui seront juste pour toi et qui vont te permettre de te sentir bien. Quand tu es déconnecté de tes besoins, tu pourrais juste être en colère sans savoir réellement pourquoi et en interprétant mal ce que tu ressens. Et c'est comme ça que, des fois, je suis sûre que ça t'est peut-être déjà arrivé ou tu as déjà parlé avec des gens qui te disent oh, on était amis et puis on s'est fâchés et ça fait des mois ou des années qu'on est fâché contre quelqu'un, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça n'a pas de sens d'être fâché ou en colère contre quelqu'un comme ça pendant si longtemps, ça veut dire que t'as pas compris ce qui s'était passé ou t'as pas voulu analyser la situation et mettre des actions en place pour dépasser cette colère et l'apaiser. Parce que franchement, traîner une colère là pendant des mois ou des années, c'est triste quoi. Ça, c'est dommage et ça te prend de l'énergie que tu pourrais mettre ailleurs, encore plus en postpartum, mais ça te prend une énergie que tu pourrais mettre pour construire. Finalement, la colère, tout ça, c'est des énergies qui te font, c'est des énergies que tu perds quoi. Alors c'est sain d'être en colère, hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais dans tes relations, juste rester en colère contre quelqu'un sans rien mettre en place pour aller de l'avant, c'est dommage. Et puis parfois, laisser partir quelqu'un, c'est plus facile. On se dit que c'est de la faute de l'autre, on se remet pas en question, on continue sa vie. Et finalement, bah, si tu fonctionnes comme ça, ton village il va pas se solidifier, tu vas continuer à te sentir seul et tu vas continuer à perdre des gens et à t'enfermer avec toi-même. C'est aussi important que toi t'ailles vers les autres. Et c'est tellement plus facile de perdre quelqu'un que d'aller lui parler. C'est plus facile de laisser des gens partir que de s'ouvrir, que de dissiper un malentendu s'il y en a un, que de s'écouter et de pardonner si on est blessé. Quelque part, ça demande moins de travail, moins d'investissement, moins d'introspection, parfois moins de douleur parce qu'on ne va pas réellement analyser ses sentiments, mais finalement, ça t'apporte rien, quoi. Et c'est en allant au bout des choses que tu vas pouvoir avancer sereinement et te sentir bien avec toi-même. Tu pourras avoir un village solide, tu seras plus sereine et tu sauras que tu peux compter réellement sur tes proches. Parce que quand tu auras eu des quiproquos, des discussions, des incompréhensions, des fois juste des désaccords, tu auras pu parler avec, tu auras pu t'expliquer, vous aurez pu dépasser ça et donc avoir une relation qui sera beaucoup plus solide. Et tu vas voir que plus tu t'écoutes, mieux tu arrives à communiquer et plus tes relations seront riches et profondes. Et finalement, je pense que c'est ce à quoi on aspire tous, avoir des relations qui sont réellement profondes et de pouvoir être soi-même avec ses proches et leur parler de façon honnête. Donc l'image du village, finalement, correspond vraiment bien aux relations que tu peux avoir dans ta vie. Tu as la place du village qui est le centre, et toi, tu peux être le centre aussi du village. Tu es le centre de ton propre village, en tout cas. Et puis, tu as les maisons qui sont vraiment très proches, proches de la place, qui sont tout autour. Il y a peu de maisons parce que la place n'est pas très grande. Puis un peu plus loin, tu as encore des maisons et puis tu as des routes qui mènent vers d'autres villages. Dans tes relations, c'est vraiment la même chose. Tu as tes meilleurs amis ou des personnes très proches de ta famille qui sont tout autour de toi. Et puis après, tu as des amis qui sont un petit peu, ben, qui sont des très bons amis, mais un peu moins proches. Puis tu as des copains et des connaissances qui sont très loin. Et la route qui te mène vers d'autres villages, c'est celle que tu vas emprunter lorsque tu fais des nouvelles connaissances, que tu reprends contact avec quelqu'un ou que tu laisses quelqu'un partir vers un autre village. Forcément, on n'attend pas la même chose d'un meilleur ami que d'une connaissance, et parfois en postpartum, la nuance n'est plus très claire. Parfois, ça se mélange un petit peu, parce que tout est plus intense en postpartum, parce que t'as besoin d'attention, t'as besoin de. Tes besoins sont différents, et ton monde a commencé à tourner autour d'un autre être humain, et toute ton attention est focus dessus et parfois tu t'attends à ce que l'attention des autres soit aussi à 1000% sur ce que tu es en train de vivre. Mais tu peux pas attendre ça de tout le monde et surtout de personnes qui sont moins proches parce que toi-même tu peux pas donner autant et t'investir autant de la même façon avec toutes les personnes que tu connais. T'as pas les mêmes affinités avec tout le monde et parfois il faut se rappeler que oui, cette personne n'est pas présente dans ta vie, mais vous êtes des connaissances ou des copains. Et toi-même, t'es pas plus investi que ça ou présente que ça dans sa vie. Et donc, c'est ok, on peut se détendre et se dire, bon, bah oui, truc, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu, il m'a pas donné de nouvelles, et en plus mon bébé est né, et nanani, et nanana. Et puis tu te dis, bah en fait, est-ce que moi je lui ai donné des nouvelles? Est-ce que j'ai pris contact avec? Bah non, bah alors, c'est ok, tu vois. Il y a pas d'animosité, il n'y a aucun problème, mais t'es pas plus présente que ça dans sa vie non plus, et donc des fois il faut aussi avoir des attentes qui sont réalistes. Et quand on est enceinte et puis en postpartum, on est très centré sur soi-même, sur ce qu'on vit, sur nos difficultés. On est dans une période de grande fragilité, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents. Et quand t'es fragile, que t'as tes hormones en folie, que tu dois mettre toute ton énergie pour t'occuper de ton enfant et tout, t'es un peu en mode survie, et donc il y a presque que toi et ton cocon qui compte et tu vas centrer toute ton attention vers ça et tu attends que les autres un peu viennent vers toi. Mais t'es pas toujours dans une période toi d'ouverture ou de connexion vers les autres. Il faut pas juste attendre que les autres viennent vers toi, il faut que tu leur donnes aussi parfois la possibilité premièrement de venir vers toi parce que ça c'est aussi une autre histoire mais on donne pas toujours la possibilité aux autres de venir vers nous. Et il faut aussi que toi petit à petit en sortant la tête de l'eau tu pense à reprendre contact, à prendre des nouvelles, à demander comment les autres vont, parce que forcément avec le quotidien, les journées qui s'enchaînent, les nuits qui ne s'enchaînent pas suffisamment, bah, t'as plus forcément l'énergie ni le temps d'entretenir les relations que tu peux avoir avec tes proches. Et donc tu peux te sentir déçu d'avoir peu de personnes sur lesquelles compter, et tu peux avoir l'illusion qu'il y a plein de gens qui ont énormément de proches. Mais souvent, quand t'as l'illusion que les gens sont hyper bien entourés, ils ne le sont pas forcément toujours autant que ça. Bah, c'est comme on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et de l'image que ça renvoie. Finalement, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'abonnés ou a mis plein de photos de ce qu'il avait fait de sa journée que le soir, quand il a fini sa journée, quelqu'un va lui envoyer un message pour lui dire comment tu vas toi, est-ce que ça va, et s'intéresser réellement à ce qu'il vit. Parfois, on peut se sentir genre envieuse de personnes très entourées, mais finalement, si tu regardes bien, tu l'es aussi. Et parfois, ces personnes que tu peux envier ne sont pas si entourées que ça. Entre se sentir seule et l'être vraiment réellement, il y a vraiment une grosse, grosse différence. Si c'est ton cas, j'espère que toutes les pistes dont je t'ai parlé aujourd'hui vont te permettre de réfléchir. Mais surtout, n'oublie pas qu'il n'y a pas de honte à reprendre contact avec une personne qui te manque. Pour moi, ce qui est triste, c'est d'avoir conscience qu'une personne te manque. Et de rien faire pour la recontacter, et juste de garder cette tristesse et cette déception d'une relation qui n'aura pas abouti ou qui n'aura pas pu se finir de façon apaisée, parce que il y a ce que toi tu veux, mais il y a aussi ce que l'autre veut. Et parfois, toi, tu as envie d'être en contact, mais l'autre n'en a peut-être plus envie et il a le droit. Mais à ce moment-là, c'est bien d'avoir une discussion honnête et de pouvoir en parler, et que chacun continue sa vie de façon apaisée, et que tu fasses quelque part le deuil de cette relation, et voilà, c'est tout. C'est ok, t'as qu'une vie, une seule. Alors parfois, dans le quotidien, dans le métro, boulot, dodo, on a l'impression que les jours s'enchaînent, se ressemblent et sont les mêmes et sont extensibles à l'infini. Mais non, t'as une seule vie, t'as quelques années sur cette terre, quelques années à passer avec tes proches, avec les gens que t'aimes, avec toi-même, avec ta famille. Et la vie, elle est précieuse et elle est belle et donc ça vaut la peine de se prendre en main, d'évoluer, de se permettre d'être heureuse simplement. Et vraiment, ça tient qu'à toi de cheminer à ton rythme, avec un accompagnement pour vivre pleinement et être en accord avec qui tu es profondément. Et le plus difficile, hein, c'est de savoir qui tu es profondément, quelles sont tes envies, quelles sont tes aspirations, d'oser changer, d'oser évoluer, d'oser sortir de sa zone de confort. Parce que des fois, on est vraiment bloqué dans des schémas ou dans des routines, dans un confort, et on se dit, ah oui, non, ça je pourrais pas faire, j'ai envie, mais j'ose pas. Et sur le moment même, c'est légitime, hein, t'oses pas, t'as le droit d'avoir peur, et c'est normal. Mais si tu prends plus de recul sur la situation et que tu regardes un peu à plus grande échelle, tu te dis, mais ma vie, elle est courte. Et est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir des regrets? Est-ce que vraiment j'ai envie de me dire, quand je ferai le bilan, sauter en parachute par exemple, c'est quelque chose que j'aurais rêvé de faire et je ne l'ai pas fait. Et il n'y aura que toi qui pourras vivre avec ses regrets ou même par exemple dans les relations, hein, quand quelqu'un te manque et que tu le laisses partir, bah, c'est toi qui vas vivre avec ce regret et qui va devoir bah, te construire et continuer à avancer avec ça. Et parfois, pareil, dans les difficultés de couple, on se dit, des fois, soit on abandonne trop vite, soit on tient trop longtemps. Et quelque part, quand on est en plein dans la galère, la tête dedans, on peut avoir l'impression que la difficulté, elle est énorme et qu'on va jamais en sortir. Et finalement, quand tu prends du recul un petit peu sur ce que tu vis, même la première, bah, le postpartum, c'est ça, hein, la première année de vie d'un enfant, c'est tellement intense, t'as la tête sous l'eau, t'es fatiguée, t'es épuisée, t'en peux plus. Et t'as l'impression que ça va jamais finir et c'est horrible. Et finalement, quand tu prends un peu de recul, un an sur ta vie, un an ou deux, c'est pas grand-chose et c'est pas énorme. Et c'est aussi pour avoir un enfant et construire ta famille et faire quelque chose, je suppose, qui est important pour toi. C'est les sacrifices que tu vas faire pendant cette période-là ou les difficultés que tu vas vivre vont petit à petit, avec le temps qui passe, aussi s'équilibrer et retrouver une importance qui est plus normale. Parce que quand t'es en plein dedans, tu te dis oui, mais ça fait 3 mois que c'est la galère, là j'en peux plus. Mais 3 mois sur ta vie, finalement, qu'est-ce que c'est, tu vois? Ça veut pas dire qu'il faut rester dans des situations qui te rendent malheureux, non, c'est pas du tout ça ce que je te dis. Mais des fois, en postpartum, on a une perception du temps qui est différente et on a l'impression que c'est la galère et que ça va le rester pour le reste de sa vie, alors que non. Et on peut se sentir coincé ou dans un schéma vraiment répétitif où tu te dis. Je vis ça toute ma vie, c'est horrible. Pourquoi j'ai fait un enfant? Et finalement, ton enfant, il grandit. Et cette période difficile, elle passe. Tu recommuniques avec ton compagnon, tu reprends contact avec les gens. Petit à petit, tu recommences à sortir, à refaire des choses. Et tu te dis, bah finalement, c'était intense, c'est difficile, mais c'est passé quand même vite. C'est comme une grossesse. Quand t'es au début, t'as l'impression que ça n'avance pas, que le premier trimestre, souvent, c'est l'horreur, c'est long. Chaque journée, t'as l'impression que c'est un an qui passe. Finalement, t'accouches et tu te demandes où sont passés ces mois-là et qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une faille temporelle, t'as fait un bond dans l'avenir et t'as déjà ton enfant. Donc c'est aussi important de remettre le temps à sa place et de lui accorder de la valeur. Passer du temps avec des gens que t'aimes, passer du temps pour toi-même, mettre ton énergie là où c'est important et là où ça vaut la peine. Ah, dans des difficultés ou dans des situations qui sont pas de ton ressort quelque part, des fois on donne beaucoup d'énergie pour les autres ou pour des choses qui nous concernent pas finalement. Et c'est important aussi de se préserver et de se dire, bon, moi qu'est-ce qui me rend heureux, comment avancer? Alors je dis pas qu'il faut être égoïste et laisser tout le monde sur le côté, hein, mais être là pour tes proches et te concentrer d'abord sur toi, parce qu'à partir du moment où toi tu iras bien, tu te sentiras bien, tu vas rayonner sur les autres. Par rapport au temps et au postpartum, ça peut te permettre parfois de prendre du recul sur ce que tu es en train de vivre, dans le sens où peut-être que ton bébé il te demande beaucoup, il a beaucoup besoin de toi et que tu vas pas. Il y avait une soirée de prévu et finalement tu vas pas y aller parce que ton bébé a besoin de toi. Et tu peux te sentir frustré, en colère et déçu parce que toi tu voulais vraiment y aller à cette soirée et que finalement c'est pas possible. Et finalement, quand tu prends du recul sur la chose, tu peux te dire bah, une soirée, est-ce que c'est si important que ça, ou oui, ça l'était énormément pour moi, et donc je mets des choses en place pour y aller, ça c'est ok aussi. Mais des fois, tu peux te dire aussi, mon enfant, il sera bébé qu'une fois dans sa vie, tu vas vivre qu'une fois ces moments-là avec lui, et puis il va grandir, il va petit à petit s'autonomiser, et toi, tu vas récupérer une vie, la vie que tu choisiras, et la vie telle que tu as envie de la vivre. Et donc, c'est important des fois de remettre les choses à leur place et de déculpabiliser, de déstresser. Est-ce que c'est grave de passer peut-être un petit peu moins de temps avec son conjoint pendant 6 mois, 1 an, alors que vous êtes peut-être ensemble depuis 10 ans, que vous avez décidé d'avoir un enfant et que vous savez que ça va bouleverser les choses et que vous allez encore passer le reste de votre vie ensemble? Si vous êtes tous les deux en accord là-dessus, ça ne posera pas de problème au sein du couple, par exemple. Donc voilà, la petite parenthèse sur la temporalité et la façon dont on perçoit les choses. La seule chose que je peux t'assurer en postpartum, c'est que les choses ne sont pas figées. Ton enfant évolue tellement vite que ce que tu vis aujourd'hui sera sûrement différent de ce que tu vas vivre demain, de ce que tu vas vivre la semaine prochaine, le mois prochain et l'année prochaine. Mais voilà, avec la fatigue, les hormones et tout, on peut avoir l'impression que ça ne changera jamais, ça n'évoluera jamais. Et ton bébé qui veut tout le temps des bras et qui veut tout le temps être près de toi, T'as l'impression que les 25 prochaines années, ça sera comme ça, sauf que dans 6 mois, il marchera ou qu'il va s'éloigner progressivement, qu'il va grandir et que c'est toi qui te diras, allez, tu veux venir dans mes bras, est-ce que tu veux un câlin? T'es sûr, tu veux pas un câlin? Et qu'il dira non et qu'il ira jouer de son côté. Et finalement, tu pourras te repenser aux périodes où c'était difficile et te dire, bah oui, c'était quelques mois de difficulté, mais maintenant, il gagne en autonomie et il avance. Alors quand je te parlais de vivre pleinement ta vie et d'être en accord avec qui tu es profondément, évidemment, je te dis pas de la vivre pleinement en faisant la fête et en faisant n'importe quoi. Je te dis que c'est juste, je dis juste entre guillemets parce que c'est vraiment la partie la plus difficile, de savoir ce qui te rend heureuse et bah, tout mettre en œuvre pour aller vers ce bonheur et vivre ce bonheur. Parce que oui, tu as droit au bonheur. On y a tout droit, on y a tous droit. Et si un jour quelqu'un t'a fait douter de ce droit, j'aimerais vraiment te dire que je suis désolée, que tu aies dû traverser ça, que c'est pas normal, que tu es forte et que tu as le droit de vivre la vie dont tu rêves. Pour finir cet épisode, j'ai envie de vous partager un post, un article, une vidéo découverte sur les réseaux sociaux. Là, j'ai découvert la vidéo de Sarahba, donc c'est Sarahba en un seul mot, sur Instagram, où elle se filme sur le chemin de l'école avec son enfant. Et tous les matins, il se répète des affirmations positives. Et là, dans la vidéo, on l'entend dire « Je suis intelligent, je suis courageux. » Et le soir, quand il finit sa journée, il dit pourquoi il est reconnaissant. Et j'ai trouvé ça beau de l'avoir donné ses clés à son enfant et de les partager à sa communauté. Et surtout, c'est beau de grandir en ayant conscience de sa valeur, en ayant confiance en soi. C'est un merveilleux cadeau qu'elle fait à son enfant et finalement qu'elle nous fait indirectement pour qu'on puisse nous aussi bah, mettre ces petites choses en place qui sont très simples, mais qui auront des bénéfices tellement grands sur nous et sur nos enfants que j'avais envie de vous en parler. C'est vraiment le genre de contenu positif et inspirant qui me fait aimer les réseaux sociaux. Voilà, c'est là qu'on se quitte. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Maman Relax. D'ici là, portez-vous bien.